Donc, cette communication n'aurait pas été possible sans la démarche initiée depuis quelques années par Maxime Servul, Nelly Kemner et Florian Voros. On pourrait dire une sorte de détour théorique initié à Paris pour comprendre les cultural studies. Je dis détour théorique pour reprendre une expression utilisée par Stuart Hall dans plusieurs de ses articles pour décrire le moment dans les années 70 où des groupes de travail cherchent à justifier théoriquement la démarche initiée par les chercheurs du centre qu'ils nomment cultural studies. Dans le processus qui m'a amené à parler aujourd'hui, s'ajoute le travail collectif au sein de mon équipe de recherche, le MCPN, qui s'est penché de 2013 à 2015 sur des points de jonction entre les cultural studies et l'économie politique de la communication, tout comme celle d'autres programmes, en particulier à Paris 8, d'où découlent les événements comme celui d'aujourd'hui. Lorsque j'ai vu le sujet du colloque, j'ai réalisé à quel point j'avais, à Nantes, été bercé par une histoire, celle du LARSCO, le laboratoire d'études et de recherche sur la classe ouvrière, où j'ai fait ma thèse, et dont certains phénomènes rappelaient en de nombreux points celle des premiers moments du centre de Birmingham. Donc, au-delà d'un voyage dans les archives, j'ai effectué un long entretien avec la figure qui a porté le LARSCO, Michel Verret, né en 1927, donc qui a aujourd'hui 89,6 ans, qui m'a répété. Donc, d'abord, en introduction, je voudrais expliquer ma démarche. Donc, je vais me placer, comme toujours dans mes travaux, plutôt dans une perspective française, donc située en France. Et bon, alors, pour dire des choses que tout le monde connaît, mais un peu pour resituer la démarche, c'est que bon, ce qu'on retient, on pourrait dire les idéotypes ou même parfois des stéréotypes, comme cela a déjà été évoqué aujourd'hui dans le débat cultural studies versus économie politique de la communication, et plus largement cultural studies versus théorie marxiste, c'est voilà, de manière un peu caricaturale, la répartition, réception, production, émancipation, exploitation, production, réception, voire même structure versus conjoncture. Et comme vous le savez, en France, les cultural studies sont souvent considérées comme trop peu critiques et on se focalise sur une confiance trop importante dans l'autonomie laissée aux acteurs. Donc c'est comme ça que les cultural studies sont souvent critiquées. Mais cependant, au-delà du développement post-structuraliste de la fin des années 70 et le franchissement de l'Atlantique, on redécouvre avec intérêt aujourd'hui, et c'est ça qui nous réunit, le nœud commun dans les années 60 et plus spécifiquement entre la fin des années 50 et la fin des années 60. C'est là-dessus que je vais me focaliser. Je ne suis pas un spécialiste de Hall, donc je serai plutôt en amont de cette période. Et notamment les discussions autour des années 60 sur l'interprétation de la théorie marxiste et la question de l'idéologie. À partir d'une base commune, on sait que les divergences apparaissent au sein du mode de production capitaliste entre, disons, la recherche critique et les cultural studies sur la relation entre la base et la superstructure et évidemment sur le rôle déterminant de l'économie en dernière instance au sein du matérialisme historique. Je voudrais me focaliser dans un premier temps sur ce qui se passe donc en amont des écrits de Stuart Hall jusqu'à la première moitié des années 70 et les mettre en parallèle avec les travaux d'un sociologue français, Michel Verret. Donc, comme le dit Stuart Hall lui-même, donc à la base des cultural studies, il y a le rôle de Williams, né en 1921, celui de Thompson, né en 1924, donc ses premiers écrits, et l'ouvrage de Hogarth, Use of Literacy, Hogarth lui-même, né en 1918. Donc, Williams et Thompson, comme vous le savez, se disent marxistes et adhèrent un temps au Parti communiste. Thompson et Hogarth travaillent sur la classe ouvrière, mais Hogarth n'est pas marxiste. Williams joue un rôle important pour déconstruire le marxisme orthodoxe, notamment à partir de ses travaux sur le matérialisme culturel. Quant à Thompson, avec la notion d'économie morale, notamment, il cherche à montrer que le fonctionnement des classes populaires suit sa propre logique, indépendamment de celle des classes dominantes, mais tout en épousant un système de valeurs basé sur une sorte de déontologie liée à la communauté. Le nivellement par la consommation, le contrôle des masses, sur une classe populaire victime consentante, ne serait pas quelque chose de mécanique ou d'effectif. Donc il y a une lecture spécifique des médias et des propositions culturelles de la part des classes populaires, donc ce que Hogarth appelle l'attention oblique. Là où certains se focalisent sur l'aliénation, L'école de Birmingham souligne une possible résistance, pour le dire vite, à partir de la spécificité des cultures communautaires. Bon, maintenant, je vais aborder un deuxième point pour poser le sujet, c'est le théoricisme français dans le marxisme et la manière dont la pensée marxiste est perçue et commence, avant de voir comment Michel Verret se situe dans ce contexte. Donc, le marxisme français, donc à l'époque, années 60-70, est considéré comme théoriciste, notamment à cause des théories structuralistes. Et alors qu'il y a une vision, je dirais, en tout cas en France, il y aura une vision plus fine du marxisme anglais qualifié de, notamment par exemple, de romantique par Serre et Lowy dans un papier de 1993. Thompson dénonce ainsi les dégâts provoqués par Althusser, le bouquin récemment traduit. Et on retrouve d'ailleurs sous une autre forme cet écrasement théorique qu'on trouve dans les théories critiques, on le retrouve chez Bourdieu. Là, je vous citerai Passeron dans son ouvrage sur la réception française du livre de Hogarth. Il dit « On voit, il faut l'avouer in extremis, que c'est à propos du style hogarthien de description des rapports entre culture savante et culture populaire que la sociologie de la culture de Bourdieu et la mienne ont divergé après 1970. » Bourdieu, à partir de la distinction, a inlassablement travaillé à ramener à l'unité de teinte les nuances indociles qui constituent l'étoffe multicolore du discours interprétatif des sciences historiques au profit de l'unité de langage dans une théorie toujours plus universelle. Hogarth, lui, n'a jamais pratiqué cette simplification fonctionnaliste des significations interprétables dans un ordre social. Donc on voit que c'est par la réception de Hogarth que, la divergence entre Bourdieu et Passeron s'est développée, avec Passeron qui argue sur le fait que la théorie bourdieusienne devient trop systématique concernant la culture des classes populaires. De ce point de vue, donc, au-delà du manque de libre arbitre et de l'absence d'autonomie individuelle, le marxisme français développerait une démarche scientiste, théoriciste, anhistorique et anti-humaniste. Ceci, au-delà du marxisme, serait valable aussi pour le structuralisme. D'ailleurs, on sait que pour légitimer Hogarth en France, Passeron a un peu transformé ses propos. Je pense que vous avez un peu lu des choses là-dessus. Il a cherché à les sociologiser. En fait, vous savez, il a transformé Hogarth en fait en sociologue. Il le reconnaît lui-même dans les traductions qu'il a fait de The Use of Literacy, donc qui est paru sous le titre La culture du pauvre dans la collection dirigée par Pierre Bourdieu, Le sens commun. Passeron dit j'ai lu avec surprise que Hogarth dit dans son autobiographie qu'il a été surpris par ma lecture de The Use of Literacy. C'est l'étonnement de Hogarth qui m'étonne. Parce qu'il est indéniablement, je le maintiens, un théoricien. Qu'il le soit implicitement ou explicitement, ne change rien à l'affaire. Hogarth doit se résigner à cette évidence qu'il est un théoricien, pour le meilleur et pour le pire. La théorie réside dans la portée des mots et des phrases qui font une description dans leur cohérence. Hogarth répond, la première chose que je tiens à préciser, dans le papier qu'il fait sur sa réception en France, la première chose que je tiens à préciser est celle-ci. Je ne suis pas un théoricien, loin de là. Je parle toujours de choses concrètes, factuelles. Pour moi, ce sont ces choses-là qui déterminent le sens de nos vies. Sinon, je ne leur aurais pas consacré 30 ans de travail. Mais on pourrait dire, Passeron n'est pas isolé. Voilà ce que dit l'historien Jacques Revel de la réception du texte de Hogarth et de la présentation qu'en fait Passeron en 1970. Je cite Revel. Je mobilise ici mes propres souvenirs de lecteur de la culture du pauvre pour suggérer que, dans sa difficulté, le texte de Passeron, qui se trouvait en introduction de la culture du pauvre, était d'une certaine manière plus rassurant que le livre auquel il introduisait. Le premier nous maintenait encore dans le cadre rassurant des préalables épistémologiques, fût-ce pour inviter à penser autrement, tandis que le second, le texte de Hogarth, nous égarait dans un monde dont nous parlions volontiers. Pourtant, la plupart d'entre nous en savaient peu de choses, donc comment vivaient les classes populaires, même si les certitudes ne manquaient pas sur la classe populaire. Or, les certitudes de ces certitudes sur la classe ouvrière, on ne trouvait nulle trace dans la culture du pauvre. Cependant, cette vision de la pensée française est un peu trop généraliste, un peu comme celle qui, à l'opposé, tire chez nous les cultures hostilistes vers la postmodernité, une sorte de relativisme horizontal, ou bien le néolibéralisme, un libre arbitre non contraint. Même si on critique les cultures hostilistes comme soit postmodernes, soit néolibérales, on voit bien que c'est de la même manière, c'est tiré un peu artificiellement. Bon, maintenant, je voudrais poser le troisième point. Michel Verret. En fait, ce qui est exprimé par les cultural studies anglaises sur les cultures populaires et plus spécifiquement sur la culture de la classe ouvrière est travaillé en France par certains chercheurs, par quelques chercheurs isolés. À mon sens, le plus important d'entre eux, donc à la même époque, fin des années 60, début des années 70, à mon sens, le plus important d'entre eux est sans doute Michel Verret, qui, dès la fin des années 60, partage nombre de perspectives des fondateurs des cultural studies à partir de son travail sur la classe ouvrière. De formation et adhérent pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, au Parti communiste, il glisse vers une perspective hétérodoxe et davantage humaniste. Il dénonce alors progressivement le dogmatisme monodisciplinaire qu'il expérimente en sociologie, le théoricisme, les rapports de pouvoir concernant la question des minorités postcoloniales ou de genre, mais aussi méthodologiquement le scientisme de l'objectivation. Sa pensée est minoritaire et le restera, bien qu'elle a pu conjoncturellement posséder un réel impact. Parmi les chercheurs intéressés par les cultural studies, je n'ai trouvé qu'une fois son nom dans le cadre d'une contribution de Éric Neveu à la revue L'Homme, qui, en note de bas de page, souligne que Verret est le contre-exemple du mouvement général en œuvre dans le marxisme français des années 70 et 80. Né à Cambrai en 1927, après une formation à l'ENS et une agrégation de philosophie, Michel Verret enseigne d'abord à Nantes la philosophie au lycée Clémenceau, de 1953 à 1967. Il rejoint ensuite Jean-Claude Passeron, né en 1930, muté à Nantes comme maître assistant de sociologie, après qu'il ait lui aussi été formé à l'ENS et obtenu une agrégation de philosophie et enfin ait enseigné 4 ans en lycée. Passeron, rapidement absent, puisqu'il passe beaucoup de temps à l'université Vincennes-Saint-Denis après 1968, Verret fut le cofondateur puis le directeur à partir de 1972 du LERSCO, donc le laboratoire d'études sociologiques sur la classe ouvrière, un laboratoire UMR-CNRS sur la classe ouvrière donc à Nantes. Il s'appuya sur des étudiants locaux, en fait, son équipe de chercheurs, des étudiants locaux qu'il a formés, dirigeant au total une quarantaine de thèses, du début des années 70 à la fin des années 80, pour moitié des femmes, pour un tiers des étrangers. Finalement, Verret, dont la carrière de sociologue se déroule pleinement sur 20 années, de la fin des années 60 à la fin des années 80, fut un sociologue assez critiqué par la profession. Les commentaires qui lui sont faits sont souvent sur le thème « Il est un peu trop hétérodoxe, même s'il est brillant et possède des idées », qui a-t-il à sauver dans son travail ? Qu'y a-t-il de sociologique dans son travail ? Au début des années 90, peu après son départ en retraite, des entretiens sur sa carrière paraissent dans plusieurs revues telles que Politics, Espace-Temps, Travail, Genre, Société, où l'on cherche à cerner sa démarche à partir d'une posture sociologique. Pour préparer cette communication et avant de m'entretenir avec Michel Verret, j'ai fait le constat suivant. Michel Verret n'a même pas de page Wikipédia. Il me manquait le premier tome de sa trilogie, L'espace ouvrier, que j'ai récupéré en édition originale sur Price Minister pour 4,50 €. Il faut dire d'ailleurs que l'ouvrage La culture ouvrière, qui est le troisième ouvrage, la fin de sa trilogie, je l'avais acheté 17 francs chez un soldeur à Nantes, Neuze, alors que j'étais étudiant en sociologie en 1997. Très peu nombreux sont les soutiens de Michel Verret dans l'institution. Peut-être seule exception, c'est Bruno Pequignot qui a réédité l'ensemble de ses écrits, ou Olivier Schwartz. Alors, Michel Verret, une autre approche en détail. Au lieu de le lire par défaut, en essayant de jauger l'appartenance de Michel Verret au sein de la sociologie, malgré son hétérodoxie, tout comme Passeron essayait de montrer que Hogarth était pleinement sociologue, même s'il ne respectait pas les paramètres qui faisaient normalement le fait d'être sociologue, on peut au contraire lire le travail de Verret comme, premièrement, celui d'un chercheur ayant pleinement conscience des potentiels, mais aussi des limites de la sociologie. Deuxièmement, celui d'un chercheur qui se méfiait de l'excès de théorisation, privilégiant le terrain et prêt à tout entendre des ouvriers auprès desquels il enquêtait, quitte à ce que leur pratique remette en cause ses analyses. Troisièmement, celui d'un scientifique qui assume sa position militante et ne renonce pas à ses propres combats dans sa position de chercheur. À partir de ces paramètres, Verret rejoint les fondateurs des cultural studies. Il estime par exemple que les textes, que l'analyse littéraire et les œuvres de l'esprit peuvent apporter des éléments de compréhension du monde réel. Suivant cela, enfin, par exemple la position de Hogarth et d'un certain nombre de chercheurs du centre, comme eux, ils valorisent la potentialité d'une approche multiple qui tiendrait compte de la diversité des sciences sociales. Ainsi, à la base du LERSCO, il y a une équipe de jeunes chercheurs qui privilégie le dialogue interdisciplinaire. Là, je cite Verret, « Si le LERSCO a eu sur la période une originalité, c'était sans doute cet esprit de variété et de variation mobile et plurielle. L'idée était même de multiplier les sources théoriques pour les faire confluer. Dans la discipline, entre disciplines, nous venions presque tous d'autres spécialités, philosophie, lettres, droit, histoire, économie, ethnologie, mais aussi pour quelques-uns de la psychanalyse. Pour tous, des auteurs qui les inspiraient. La méthode de travail, entre nous, le principe du travail Touareg, pour rapprocher les cœurs, espaçons les tentes. Division des tâches, travail solitaire, communication par œuvre, relation à plaisanterie, échange festif. Mais les chercheurs nantais vont payer cette position libre. Verret dit, Nantes était loin des lumières parisiennes, le thème ouvrier, loin des vitrines de mode. Mais les difficultés sont surtout venues de l'édition. En ce qui me concerne, Armand Collin, qui devait publier les 3 tomes de ma série sur l'ouvrier français, a refusé la culture ouvrière, qui pourtant donnait sens et achèvement à l'espace ouvrier et au travail ouvrier. J'ai sublimé, d'autant que 7 éditeurs parisiens ont refusé tour à tour ce manuscrit réprouvé. Heureusement, j'ai été découvert opportunément par un petit éditeur qui prospectait en Basse-Loire. Dans sa réception auprès des sociologues français, Verret est un peu comme Hogarth. Sauf que, selon le principe de la beauté du mort, pour citer de Certeau, l'écriture d'Hogarth est forcée par Jean-Claude Passeron et son livre édité dans la collection de Bourdieu. Il n'en va pas de même chez Verret, qui, en termes d'appellation, glisse peu à peu d'une sociologie de la classe ouvrière à une ethnologie de la culture ouvrière. Posture de désignation qu'il assume avec philosophie, si cela ne menace pas sa liberté. Je me rappelle à Nantes, au milieu des années 90, d'une conversation avec ma directrice de thèse, elle-même étudiante, ancienne étudiante de Verret. Elle me rapportait qu'un jour, Christian Baudelot, sociologue qui avait succédé à Verret comme directeur du LERSCO de 84 à 93, lui avoua que si elle était désignée comme ethnologue de la culture ouvrière, ça ne lui posait pas problème. Ce qui lui posait problème, c'est qu'elle soit désignée comme sociologue de la classe ouvrière. Dans l'entretien à Politique 191, on lui demande ainsi « Une question parmi d'autres peut se poser à la lecture de votre culture ouvrière. On constate en France un déplacement de la sociologie du travail ouvrier vers une ethnologie de la culture ouvrière. Si l'on peut se féliciter de cette découverte de la diversité des manières d'être ouvrier, comment ne pas s'étonner du retard de la France par rapport, par exemple, à la Grande-Bretagne ? On pense ici à des ouvrages sitôt parus. » C'était le moment, l'ouvrage de Thomson venait de paraître en France, la traduction. Et Verret répond, s'il faut s'étonner, c'est 2 fois. Une fois du retard, une fois de l'avance. Car nous n'avons pas toujours été en retard en cette approche, savoir même si nous n'avons pas été les premiers. Il dénonce l'étroitesse d'une sociologie institutionnalisée à la française, canalisée au début du XXe siècle par les Durkheimiens, puis plus récemment par l'école de Bourdieu, qu'il nomme Bourdivine. En fait, c'est là que ça vient. Enfin, je ne comprenais pas quand j'étais étudiant. Les profs disaient, oui, alors l'approche Bourdivine ou alors les Bourdivins. En fait, c'est un truc qui venait de Verret. Alors, je vous cite Verret. Les Durkheimiens, qui ont si excellemment défendu le domaine de la discipline, l'ont aussi recouvert et borné en telle exclusive, si sévèrement bouclée, du champ de l'édition et de celui des postes et protections sociales. Il ne fait pas bon être marxiste en ce moment. Mais faut-il l'être pour situer historiquement, comme l'a fait la sociologie historique de la sociologie, la double éviction de la sociologie leplésienne par la sociologie durkheimienne, de la sociologie ouvrière dans la sociologie durkheimienne, et pour y voir le double effet de cette double lutte de classe en superposition et interférence dont Eric Hobsbawm a si bien parlé. Pour cette communication, je suis allé donc voir Michel Verret chez lui, réaliser un entretien. Je suis allé passer l'après-midi avec lui. Et je suis allé le voir en lui demandant directement, au-delà des écrits, son rapport à l'école de Birmingham et au travail de Stuart Hall. Il n'a pas lu Stuart Hall. Il n'a lu que les auteurs traduits en français. Ce qui ne l'a pas empêché d'écrire le long papier sur les auteurs traduits en français. Ainsi, en 1972... il a consacré un long article à la culture du pauvre de Hogarth et en 1989, un autre à Edward Thompson suite à la traduction de The Making of the English Working Class, la formation de la classe ouvrière. Il a par ailleurs beaucoup lu sur la classe ouvrière anglaise. Pour le dire brièvement, Hogarth aura un important impact sur sa sociologie. Mais là où Passeron se sert d'Hogarth pour disqualifier à la fois ce qu'il appelle les populistes et les misérabilistes, Verret insiste plutôt sur le fait que Hogarth montre la puissance de la dimension culturelle de la communauté ouvrière et de la classe ouvrière dans la construction d'une culture autonome. Il rejoint ainsi les écrits de Thompson et ce, plus tard, des subcultures. Dans son long article sur Hogarth, paru en 1972 dans La Pensée, il souligne l'importance d'une ethnologie de la culture populaire au sens de Hogarth. Il constate en effet que les classes populaires restent ces étrangères en leur propre pays et sont deux fois ignorées par l'ethnocentrisme des classes dominantes, une fois parce qu'elles sont autres et une fois parce qu'elles sont dominées. Il dit encore, peut-être n'est-ce pas un hasard si cette rencontre théorique entre l'anthropologie culturelle et la sociologie des classes trouve aujourd'hui son terrain électif en Angleterre. En ce lieu étroit de confluence entre la grande tradition culturaliste anglo-américaine, la tradition marxiste ou marxienne de l'historiographie anglaise et le terrain ethnologique lui-même, une classe ouvrière de vieille implantation, remarquablement concentrée et fortement typée. Cernant la question de l'autonomie relative de la réception et de la réappropriation des propositions médiatiques par les ouvriers, Hogarth relativise la thèse hogarthienne qui tend vers le conservatisme. C'est-à-dire que la deuxième partie du bouquin de Hogarth, vous savez, qui du coup est disqualifiée à partir du début des années 70, Verret, qui ne connaît pas ce qui se passe en Grande-Bretagne, fait un peu le même constat. Il dit « Il est frappant de constater à quel point Hogarth définit la culture populaire comme une culture conservatrice et immobile. » Ceci dit, la culture ouvrière se définit-elle seulement parce qu'elle conserve ou parce qu'elle transforme? S'il fallait ne la définir que par un trait, ce serait plutôt ce qu'elle transforme. Bon, combien de temps j'ai?
Encore 5.
Merci. Ok. Bon, là, j'ai été embarqué en fin de compte, du coup, dans ce que racontait Verret. Et donc là, c'est un peu une surprise, dans le récit, ça va être comme une espèce de cassure, c'est que je vais vous parler de Althusser. Et vous allez me dire, pourquoi vous allez me parler d'Althusser? Parce que en réalité, Verret est très proche d'Althusser. Donc je voulais, du coup, refaire des liens ou des ponts avec des choses qui ont été dites ou qui vont être dites demain. Quand j'ai évoqué avec des collègues sociologues nantais, qui furent des étudiants de Verret et qui furent aussi mes enseignants, mes profs, Joël Guibert et Christophe Lamoureux, et pas de ma famille, Joël Guibert, la question d'Althusser, j'ai vu sur leur visage à la fois de l'incompréhension et de la terreur. J'ai dit, oui, Althusser, là j'ai vu que ça n'allait pas. Ce fut un nom qui avait été pour eux à la fois synonyme d'hermétisme et de dogmatisme et qui n'avait plus lieu d'être convoqué, au moins sociologiquement. Même Miège et son équipe rejetaient Althusser pour excès de théoricisme dans leur rapport de 1975, La marchandise culturelle, et leur ouvrage de 1978, Capitalisme et industrie culturelle. Ce qui n'est pas peu dire, à mon sens, si vous l'avez lu. Dès les années 80, Althusser avait été mis à l'index par les sociologues nantais, donc les étudiants de Verret, pour deux arguments au moins. Premièrement, pour ses postulats, le système écrasait le sujet, renonçant à lui laisser toute place. Deuxièmement, pour sa méthode, qui ne se nourrissait pas de l'enquête, mais se contentait de la théorie, même si cette dernière défendait la pratique. Althusser, pourtant, comme Poulantzas ou comme Lénine, après Marx et Engels, il l'avait étudié à Nantes et il l'avait considéré comme une arme de destruction massive, notamment via le concept d'appareil idéologique d'État. Il faut dire qu'Althusser, et c'est là en fait la clé, fut au début des années 50 l'enseignant de Michel Verret à l'ENS, et son camarade au parti, jusqu'à la fin des années 70. Et il resta longtemps un compagnon de discussion intellectuelle de Verret, quitte à débattre par écrit, notamment dans la revue La Pensée, ainsi que par échange de lettres. D'après Verret, pour Althusser, lire les auteurs sociologiques n'était pas une bonne solution. Donc Althusser a été déçu quand Verret passait de la philo à la socio. Althusser ne pouvait reconnaître la pertinence d'un Max Weber, m'a dit Verret, ou encore d'un Marcel Mauss, ou même d'un Walter Benjamin. dans un texte paru en 2001, Verret détaille au-delà de son amitié avec le philosophe les rapports ambivalents qu'il portait à sa théorie. Il rappelle que ce fut un camarade communiste, notamment à l'époque de l'appel de Stockholm, pour empêcher l'usage de la bombe atomique contre les révolutions sociales de Corée ou anti-impérialiste, la première guerre du Vietnam. Il le qualifie d'inventeur théorique révolutionnaire et souligne que la volonté de systématique théorique d'Althusser a eu un rôle dans la cohérence de sa propre sociologie. Pourtant, Verret constate chez Althusser l'absence de discussion ou de considération pour de nombreux auteurs, ou même d'éléments disciplinaires, comme l'histoire des annales. Sa focale sur Marx, dit Verret, l'amène à négliger le rôle d'Engels, traité avec condescendance, comme celui qui a fait ce qu'il a pu, mais alors que, pour Verret, les œuvres d'Engels, notamment ses œuvres historiques, plus que des éléments de solution à des problèmes sur lesquels Althusser se donne beaucoup de mal, les commencements, les avatars de l'État, l'État au-dessus des classes, ben, du coup, Engels a des solutions pour les problèmes de Althusser, d'après Verret. Et même, pour Verret, il aurait dû lire Engels pour les questions justement de genre et notamment de rapport homme-femme. Pour lui, Althusser ne traite pas du tout le problème de l'oppression de sexe, et alors que du coup, Engels aurait pu l'aider là-dessus. Verret regrette l'absence de réflexion sur les concepts décisifs tels que la culture, jamais cité par Althusser, qu'en culture cultivée au sens élitaire ou institutionnel, plus tard en passant comme folklore, dit Verret, mais jamais prise de front au sens anthropologique. Le problème de concepts peu incarnés, comme d'après lui l'appareil idéologique d'État, apparaît confondu par coup de force sémantique non argumenté avec les institutions et censé couvrir tout le champ de celles-ci. Et puis, il y a l'absence de l'expérience concrète de la classe ouvrière et aussi du corps dans l'analyse. Bon, je fais bref. Du coup, comment alors Althusser, dans ces conditions, peut participer aux justifications des cultural studies et notamment de Stuart Hall? Si on compare aux écrits de Stuart Hall, on voit que dans la perspective de Verret, il n'y a pas de possibilité de prendre des points de théorie chez Althusser, tels que la contradiction, l'articulation, la surdétermination, sans dommages collatéraux. On est donc ici, en quelque sorte, face à deux conceptions épistémologiques qui, d'une certaine manière, enfin, rejoignent, je dirais, une tradition française et une tradition anglaise, enfin, peut-être, une hypothèse. Donc il s'agit bien pour Hall, non pas d'épouser les thèses d'Althusser, mais de reconnaître que sa pensée permet d'affûter le projet des cultural studies, tout comme l'analyse littéraire, la sociologie, la méthode ethnographique ou l'adoption d'une posture féministe ont pu être importants à d'autres moments des années 70 au sein du centre. La différence de ce point de vue entre Stuart Hall et Michel Verret, c'est que ce dernier cherche à s'émanciper d'un marxisme scientifique qu'il trouve sclérosant via Althusser, alors que Hall fait un détour conjoncturel par la théorie pour justifier la position des cultural studies. Finalement, par rapport à la force des liens faibles, The Strength of Weak Ties de Granovetter, dont parlait MacLennan ce matin, on peut dire que si elle a fonctionné pour les cultural studies, elle n'a pas fonctionné pour le Larsco. On peut mentionner plusieurs raisons. La puissance de l'institutionnalisation des savoirs disciplinaires dans l'université française fait que le Larsco positionné dans la sociologie en fait, a fini par être isolé et écrasé. Deuxièmement, le départ en retraite de Michel Verret, qui s'est retiré de la vie intellectuelle en 1988, et notamment de sa dimension politique et stratégique pour ses étudiants, permettant à d'autres forces de prendre le pouvoir au sein du département de sociologie nantais, notamment les bourdieusiens. Troisièmement, comme d'autres, notamment Thomson Williams, il s'est mis à écrire des poèmes, Verret. Je me rappelle avoir lu notamment avec incompréhension sa contribution au départ en retraite de Raymond Moulin ou encore de Jean-Paul Molinari sous forme de poème. Moi, j'étais étudiant en thèse, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où j'arrivais, j'ai ainsi assisté à la liquidation du Larsco pour des raisons budgétaires. Voilà. Merci.